de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et bientôt, je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. 5 morts en raison de l'épidémie d'Ebola au Congo. L'ASEAN et la Chine construisent la route de la soie de santé pour lutter contre la COVID-19. L'Assemblée consultative du peuple, le contenu de la facture HIP doit être corrigé avec soin. Former le bureau de gestion du projet pour surmonter les contraintes de food estate. Prioriser la sécurité. Le ministère indonésien de la religion annule le départ des pèlerins du Hajj 2020. BNPB obtient de l'aide à protéger et à diagnostiquer COVID-19. Et le premier ministre arménien est testé positif à un nouveau coronavirus. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. 5 morts en raison de l'épidémie d'Ebola au Congo. 5 personnes sont mortes à cause du virus Ebola qui a frappé la République démocratique du Congo. Une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. L'UNICEF a déclaré que les décès s'étaient produits entre le 18 et le 30 mai, cité de Wick, mardi de juin 2020. L'une des victimes était une fille de 15 ans. C'est la 11e épidémie d'Ebola qui frappe ce pays depuis qu'elle a frappé pour la première fois en 19. Cette épidémie est la 11e épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis qu'elle a frappé pour la première fois en 1976. Jusqu'à présent, le Congo essaie toujours de mettre fin à l'épidémie qui a commencé dans la partie orientale du pays. Selon l'OMS, les cas d'infection d'Ebola au Congo ont atteint 3406 cas avec 2243 décès en 2018. L'ASEAN et la Chine construisent la route de la soie de santé pour lutter contre la COVID-19. L'ASEAN et la Chine développeront le conseil de la route de la soie de santé pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Chao Lijian, a déclaré mardi dans un communiqué écrit comme rapporté par Antara que tous les pays accomplissent actuellement la tâche importante de lutter contre le virus. tout en rétablissant la croissance économique, en construisant la route de la soie. La route de la soie du 21e siècle est un dérivé de l'initiative Belt and Road, lancée par le président chinois Xi Jinping devant des membres du Parlement de l'Indonésie à Jakarta en juin 2013. Le Conseil est une référence pour la Chine dans le développement de projets d'infrastructures dans l'ASEAN, notamment en Indonésie. L'Assemblée consultative du peuple, le contenu de la facture HIP doit être corrigé avec soin. Le vice-président de l'Assemblée indonésienne consultative du peuple, Sharifuddin Hassan, a estimé que le contenu du projet de loi sur l'idéologie du Pancasila HIP devait être corrigé avec soin. Minutie et prudence afin qu'il n'y ait pas de place pour l'entrée d'une idéologie communiste interdite. Par conséquent, il a considéré le décret TAP MPRS numéro 25 de 1966 doit être inclus dans le projet de loi HIP pour présenter la certitude juridique qu'il n'y a pas de place pour une idéologie interdite d'entrer et d'infiltrer les valeurs de Pancasila. Sharif Hassan, dans sa déclaration, a déclaré mardi à Jakarta que le décret MPRS numéro 26 de 1966 doit être inclus comme l'un des fondements juridiques de la considération, rappelant dans le projet de la soie sur l'idéologie du Pancasila. C'est pour présenter la certitude juridique que Pancasila, avec la base et l'idéologie de l'État, qui ne doivent pas être infiltrés par d'autres idéologies, en particulier les idéologies interdites. Former le bureau de gestion du projet pour surmonter les contraintes de Voudestet. Divers programmes stratégiques nationaux PSN continuent d'être exécutés par le gouvernement du président Joko Widodo, non seulement pour la construction d'infrastructures, mais à travers du programme stratégique national. Le gouvernement se concentre également sur la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Afin de garantir ses besoins alimentaires, le gouvernement prévoit de créer Food Estate, une zone désignée comme une nouvelle grange alimentaire en Indonésie, située dans la région de Pulang Pisau, dans la province centrale du Kalimantan. Le ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, chef de l'Agence foncière nationale, ATRBPN, Sofiane Djalil, a déclaré mardi 2 juin 2020 qu'il était nécessaire de réaliser une étude et une cartographie de la zone qui est devenue Food Estate. Les enquêtes doivent être menées ensemble et impliquer les ministères et institutions. Pour déterminer les limites des zones forestières, son parti doit être accompagné pour identifier ses limites. Sofiane Djalil espère que le programme de Food Estate peut fonctionner de manière durable. Il a suggéré que le bureau de gestion du projet soit formé. Prioriser la sécurité. Le ministère indonésien de la religion annule le départ des pèlerins du Hajj 2020. Le ministère indonésien de la religion a annoncé l'annulation du départ des pèlerins lors de la tenue du Hajj en 1441 Hijri en 2020. Cette politique a été prise parce que le gouvernement doit donner la priorité à la sécurité des pèlerins au milieu de la pandémie inachevée de COVID-19. Le ministre indonésien de la religion, Wahru Razi, lors d'une téléconférence avec les médias au bureau du ministère des Affaires religieuses de Jakarta mardi 2 juin, a souligné que cette décision a été prise après une étude approfondie. Selon lui, le gouvernement a décidé de ne pas envoyer les pèlerins cette année pour respecter le décret du ministre de la Religion de la République d'Indonésie numéro 494 de l'année 2020 concernant l'annulation du départ du pèlerinage du Hajj en 1441 Hijriya, conformément au mandat de la loi, en plus des exigences en matière des capacités économiques et physiques. La santé et la sécurité des pèlerins doivent être garanties et priorisées depuis l'embarquement ou les débarquements en voyage et également en Arabie Saoudite. En plus des questions de sécurité, le ministre de la Religion, Fahru Razi, a également déclaré que cette politique avait été prise parce que jusqu'à présent, le gouvernement saoudien n'avait pas encore ouvert l'accès aux services de pèlerinage du Hajj pour cette année. En conséquence, le gouvernement de la République d'Indonésie n'a pas suffisamment de temps pour préparer la mise en œuvre de l'orientation des services et de la protection des pèlerins. La préparation est importante pour que les pèlerins puissent tenir leur culte en toute sécurité et confortablement. Fahru Razi a ajouté qu'avec la publication de la politique d'annulation pour le départ, les pèlerins du Hajj réguliers et spéciaux qui avaient payé les frais de voyage du Hajj cette année deviendrait des pèlerins en 1442 Hijri ou bien en 2021. Les paiements payés par le BIPIH seront conservés et gérés séparément par l'Agence de gestion financière du Hajj. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, obtient de l'aide à protéger et à diagnostiquer COVID-19. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, a reçu une assistance sous forme d'équipement d'autoprotection et d'équipement de diagnostic COVID-19 d'une société sud-coréenne, Hyundai Engineering Co.Ltd. Le président du BNPB, Denis Monardo, dans sa déclaration écrite à Jakarta mardi, a exprimé sa gratitude pour l'aide. Il a dit que son parti était très reconnaissant de ce soutien et pensait que ce don aiderait l'Indonésie à surmonter la COVID-19. Il espère également que cela renforcera les relations amicales entre la Corée du Sud et l'Indonésie. Cette assistance est une continuation d'avant quand Hyundai a également soumis des dons à Porta Medica. La valeur totale des deux dons a atteint 5 milliards de roupies, soit 4 800 unités de matériel de diagnostic, 260 000 unités de masques et 1 500 unités de thermomètres. Ce don sera distribué dans toute l'Indonésie via BNPB. Le premier ministre arménien est testé positif à un nouveau virus corona. Le premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré lundi qu'il y avait été testé positif à un nouveau coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Pashinyan lors d'une allocution dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Il a également mentionné que toute sa famille était également infectée par ce virus. L'Arménie, un pays de 3 millions d'habitants, a signalé lundi un total de 9402 cas de COVID-19 et 139 décès. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Les militaires peuvent-ils réprimer les manifestations contre la mort de George Floyd ?» Les États-Unis n'ont pas fini de faire face à la pandémie de COVID-19. ces pays sont secoués par des manifestations massives. Si COVID-19 est surmonté sur le confinement, les manifestations dans le pays sont restreintes, entre autres par le couvre-feu, suite à l'action de masse généralisée dans divers États. Des manifestations pour protester contre les actions des policiers qui ont entraîné la mort d'un citoyen noir, George Floyd, ont explosé en émeutes et pillages. Au début, les manifestations pacifiques dans diverses villes se sont transformées en affrontements avec la police et ont été marquées par des actes de violence. Les manifestants ont brûlé des voitures de police, endommagé des installations publiques et pillé des magasins. Pour aider la police, le gouvernement central a déployé au moins 5000 gardes nationaux pour sécuriser la situation dans 15 États et Washington DC. Pourquoi la manifestation pour la mort de George Floyd s'est rapidement propagée et si violente? Les manifestations sont courantes dans le pays démocratique, notamment aux États-Unis. La liberté d'expression est garantie par la loi, mais la propagation rapide de la manifestation pourrait être le signe d'une perception négative de la police américaine, considérée comme injustice dans ses relations avec les citoyens noirs. Le traitement brutal des policiers contre George Floyd, largement répandu sur les réseaux sociaux, a suscité la solidarité. Les efforts pour surmonter la démonstration en utilisant diverses méthodes, telles que le gaz lacrymogène et les projections d'eau, pourraient en fait susciter une résistance. La solidarité basée sur la prise de conscience d'une mauvaise relation entre la police et la communauté noire a poussé les résidents non noirs à participer à une manifestation. Le déploiement de la garde nationale, l'utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de jets d'eau, il semble, n'a pas freiné l'enthousiasme des protestations qui avaient éclaté à proximité de la Maison Blanche. En réponse aux manifestations massives, à la violence et au pillage, le président Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il déplorait des milliers de soldats entièrement armés. Est-ce que la décision de Trump va bientôt se calmer et mettre fin à la manifestation ou au contraire augmenteront l'échelle de la manifestation? Il doit attendre dans quelques jours. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bonsoir à tous. Merci d'écouter la Voice of Indonesia diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui pour l'édition aujourd'hui 3 juin. Le 3 juin 1947, les forces armées indonésiennes ont été inaugurées par le président Soekarno. Au début de son établissement, l'État indonésien n'avait aucune unité de soldats. L'Agence de sécurité du peuple, ou le BKR, formée le 22 août 1945, est annoncée par le président le 23 août 1945, n'est pas une organisation militaire officielle. Enfin, par l'avis du gouvernement du 5 octobre, Badan Keamanan Rakyat, ou l'Agence de sécurité du peuple, a été remplacée par Tentara Keamanan Rakyat, ou l'armée de sécurité du peuple. Le 7 janvier 1946, Tentara Keamanan Rakyat, ou l'armée de sécurité du peuple, a changé son nom pour Tentara Keselamatan Rakyat, l'armée de tranquillité du peuple. Puis, le 26 janvier 1946, a changé de nouveau comme Tentara République Indonésia, l'armée de la République d'Indonésie. Parce qu'à cette époque, en Indonésie, il y avait d'autres rangs armés à côté de l'armée de la République d'Indonésie. Alors, le 15 mai 1947, le président Soekarno a décidé d'unir l'armée de la République d'Indonésie avec ses rangs armés dans l'armée nationale indonésienne. Cette fusion a eu lieu et a été inaugurée le 3 juin 1947. Le 3 juin 1980, l'épidémie de tornades au Nebraska, États-Unis. Le 3 juin 1980 est connu comme la date de The Night of the Twister ou la nuit des tornades. À cette date, il y a eu une série de tornades qui ont ravagé la ville de Grand Isle du Nebraska. Les 7 tornades ont tué 5 personnes et blessé 200 personnes. L'éclosion totale de tornades a produit 18 tornades en 2 jours et causé de graves dommages jusqu'à l'est de la Pennsylvanie. Pendant 3 heures, dans la nuit du 3 juin 1980, une tornade se déplaçant lentement à travers la grande île du Nebraska a donné naissance à plusieurs tornades. C'est l'une des épidémies de tornades les plus inhabituelles de l'histoire des États-Unis. Le 3 juin 2017, l'attaque terroriste à Londres. Le 3 juin 2017, 3 personnes ont commis une attaque terroriste dans 2 endroits du centre de Londres, à savoir London Bridge et Borough Market. Des témoins ont rapporté que les assaillants ont crié « C'est pour Dieu » et ont poignardé des clients. 7 personnes ont été tuées et 48 ont été blessées à cause de cette attaque. 3 suspects ont été abattus par la police. Le département de la police métropolitaine a déclaré que l'attaque sur le London Bridge et le Borough Market était comme un incident terroriste. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui des RRI, The Voice of Indonesia, depuis Jakarta.
Kau terdiam, ku bertanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Apa salah diriku, kemana? Hilangnya dirimu, ku jadi sendiri. Ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana? Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana, kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu, hey! Ku jadi sendiri, hubungi semua teman-teman, teman-teman.
sendiri.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et en pour le titre, les hommes d'affaires de l'industrie saluent la percée du ministre de l'Industrie face à la pandémie de COVID-19. Les acteurs économiques se sont félicités dans un certain nombre de politiques stratégiques qui ont été mises en œuvre par le ministère de l'Industrie pour soutenir les activités du secteur industriel afin d'encourager la croissance économique nationale au milieu de la pandémie de COVID-19. Cette appréciation, dont l'une est venue de l'Association des industries automobiles indonésiennes, Gaikindo. Le vice-président de Gaikindo, Yongki de Sugiarto, dans sa déclaration à Jakarta dimanche, a déclaré qu'actuellement, le secteur de l'industrie automobile nationale a besoin du soutien des régulateurs, en particulier du ministère de l'Industrie. Il a reconnu que la pandémie de COVID-19 avait entraîné une baisse du pouvoir d'achat des gens et avait eu un impact sur les opérations et la productivité de l'industrie automobile. Néanmoins, le ministère de l'Industrie aide activement l'industrie automobile afin qu'elle puisse survivre face à cette période. Selon Yongki Sugiarto, l'une des politiques du ministère de l'Industrie a été bien accueillie, à savoir la délivrance de la licence de mobilité opérationnelle et d'activité industrielle ou IOMKI, qui peut garantir à l'industrie de rester productive afin de pouvoir répondre aux besoins du marché en suivant les protocoles de santé. Yongki Sugiarto a ajouté que l'industrie automobile est prête à mener des politiques stratégiques décidées par le gouvernement dans le but de relancer le secteur industriel et l'économie nationale, en particulier dans le nouvel ordre normal. Pendant ce temps, le directeur exécutif de l'Association des sociétés pharmaceutiques, Dorojatun Sanusi, a déclaré qu'avec le soutien du ministère de l'Industrie et d'autres ministères ou les institutions concernées, le secteur de l'industrie pharmaceutique pourrait continuer à fonctionner et à produire. En fait, sa performance a pu être positive sur la pression de l'impact de la pandémie de COVID-19. Au premier trimestre 2020, les industries chimiques, pharmaceutiques et des médecines traditionnelles ont pu croître de 5,59%. En outre, Dr. Jatun Sanusi a mis l'accent sur la distribution de produits, en particulier dans les zones qui ont mis en œuvre la politique de restriction sociale à grande échelle, qui pourrait continuer à être soutenue par le gouvernement afin qu'elle puisse fonctionner correctement. Dr. Jatun Sanusi a également admis que l'octroi d'un permis d'exploitation pour la mobilité et les activités industrielles, IOMKI, était une étape positive pour aider les opérations du secteur de l'industrie pharmaceutique afin qu'il puisse fonctionner pour répondre aux besoins des médicaments dans le cadre de la manipulation du COVID-19. Les opérations dans le secteur pharmaceutique continuent également d'être guidées par des protocoles de santé qui ont été décidés par le gouvernement. Auparavant, le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita a souligné que sa parti était déterminé à continuer d'encourager le fonctionnement du secteur industriel national en se référant aux protocoles sanitaires. À ce jour, environ 17 000 permis d'opération de mobilité et d'activité industrielle qui ont été délivrés à des sociétés industrielles et à des sociétés des zones industrielles par le biais du système national d'information industrielle. De plus, le ministère de l'Industrie continue de coordonner avec le gouvernement provincial pour améliorer la supervision et la formation des entreprises industrielles qui est encore en activité. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bahagia terakhir.
terasa ketika kau berada di sisi ibu ayah. Kini ku hanya tinggal sendirian, baru kini ku sadari segala milik ilahi, tiada yang kekal abadi, hanya doa dariku, moga rohmu dirahmati. Hari raya pastikan tiba, walau kau tiada, harungi jua hidup ini berbekalkan ketabahan. Hari raya tanpa ayanda, tanpa ibunda, tanpa keluarga, tapi ku bersyukur pada yang Esa.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Voice of Indonesia avec le magazine culturel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tradition de Malepe de Makassar. Makassar est l'un des quatre principaux centres de croissance en Indonésie, avec Medan, Jakarta et Surabaya. Lors des fêtes musulmanes, à savoir Eid al-Fitr, les habitants de Makassar ont leur propre tradition. Malepe Songno. Malepe signifie littéralement plier. C'est le moment de plier les vieilles feuilles tachées, ce qui a été fait, et d'ouvrir une nouvelle page pour la remplir de choses meilleures que celles des années précédentes. En termes de terminologie, malepe signifie aussi décoller, ce qui signifie décoller les péchés qui ont été commis et pardonner les péchés d'autres en leur pardonnant. En d'autres termes, le cortège de se pardonner après la prière d'Eid fait partie de malepe. Certains habitants de Bugis veulent décoller en dissolvant leurs vieux vêtements dans la rivière ou dans la mer en tant que symbole pour effacer tous les péchés, la malchance ou les mauvais traits du passé et les remplacer avec des nouveaux vêtements. Cette tradition est la culture de Sulawesi du Sud avant l'entrée de l'islam. Cette tradition est pratiquée après la prière de l'Eid, où les gens se rendent visite ou se rencontrent de voisins, de parents et des amis. Lors de la prière de l'Eid, il est devenu habituel pour les Bugis de Makassar de porter des vêtements musulmans avec des lipas sabé, sarong en soie. L'utilisation de ce sarong est influencée par l'adaptation culturelle et les recommandations du Coran et de la Sunna lors de cette célébration de porter les meilleurs vêtements que nous possédons. La tradition de malepe est célébrée en bonheur et se caractérise par une variété de plats typiques du Bugis Makassar comme aliment principal, entre autres le bourassa, riz gluant mélangé à du lait de coco enveloppé de feuilles de bananier bouillies pendant 7 à 8 heures, le tombou, le long aliment cylindrique à base de riz gluant noir enveloppé dans une feuille de banane, le pelepe, presque identique au tombou, mais avec le riz gluant utilisé, se présente sous la forme de riz gluant blanc et enveloppé dans des feuilles de coco. Ces plats spéciaux sont généralement préparés deux ou un jour avant la célébration de l'Eid al-Fitr. Ensuite, tout est servi à la famille et aux invités en pèlerinage.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Manusia tak bisa
chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Dia adik laki-lakiku. Je répète, Dia adik laki-lakiku. Ou en français, il est mon petit frère. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Dia adik laki-lakiku. Ou en français, il est mon petit frère. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Adik laki-lakiku, ou en français, il est mon petit frère. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? Qui signifie? Cette photo de famille à qui? Itu foto keluargaku. Itu foto keluargaku. Qui signifie? C'est la photo de ma famille. Itu ayah dan ibuku. Itu ayah dan ibuku. Qui signifie? C'est mon père et ma mère. Berkumis. Berkumis. Qui signifie avoir une moustache. Yang berkumis itu kakakmu. Yang berkumis itu kakakmu. Qui signifie celui qui a une moustache, il est ton grand frère. Dia adikku, laki-laki. Dia adikku, laki-laki. Qui signifie il est mon petit frère. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Qui signifie mon grand frère est celui qui est à côté de ma mère. Dans le dialogue, vous entendez dia adikku. Dia adikku, ce qui signifie il est mon petit frère. En indonésien, le terme pour les grands frères et sœurs qui sont plus âgés est kakak. Je répète, kakak, qui signifie le grand frère ou la grande sœur. Tandis que pour les frères et sœurs qui sont plus jeunes, est adik. Adik, ce qui signifie le petit frère ou la petite sœur. Si vous voulez ajouter des informations, vous pouvez dire dia kakak perempuan saya. Dia kakak perempuan saya. Ce qui signifie elle est ma sœur. Si vous parlez de votre famille, vous pouvez dire kakak saya yang perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan akan menikah. Qui signifie ma grande sœur va se marier. L'expression kakak saya yang perempuan, kakak saya yang perempuan, montre que vous avez le grand frère et la grande sœur. En outre, dans le dialogue, il y a le mot berkumis, berkumis, qui signifie avoir une moustache. Le mot berkumis étant dérivé du mot kumis, qui signifie moustache, plus le préfixe indonésien ber. Le préfixe ber dans le mot berkumis signifie punya ou avoir. Donc, berkumis signifie avoir moustache. Les autres exemples. Berambut hitam. Berambut hitam, en français, avoir les cheveux noirs. Bermata coklat. Bermata coklat, en français, avoir les yeux bruns. Berhidung mancung. Berhidung mancung, en français, avoir le nez pointu. Et berjenggot. Berjenggot, en français, avoir une barbe. Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Jika hari ini ku mati, aku hanya pasrah padamu. Aku hanyalah debu di luasnya duniamu. Aku hanyalah serpihan waktu. Tak ada satupun yang aku cinta, hanyalah dirimu yang aku puja. Hanya engkaulah yang mengatur hidupku ini. Jika hari ini padamu, izinkan untuk mengagungkan namamu. Tak ada satupun yang aku cinta, hanyalah dirimu yang.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'interbang sur l'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Pour animer la célébration de l'Eid al-Fitr 1440 Hijri, je vais vous présenter la chanson de Gita Gutawa intitulée Eid al-Fitr. La chanson chantée par Gita Gutawa est également connue sous le titre de Hari Lebaran, signifie le jour de Lebaran. Cette chanson a été créée par Ismail Marzuki peu après l'indépendance de l'Indonésie en 1950. La première chanteur de cette chanson est le groupe vocal Lima Seirama. Et jusqu'à présent, beaucoup d'autres musiciens ont la chantée, tels que Bimbo, Gigi, Tasha, Ungu, Gita Gutawa, etc. L'artiste singapourien M. Ramli a également la chanté, dont les paroles sont légèrement différentes en 1970. Seule de version de Gita Gutawa a été publiée en 2010 dans l'album Balada Salawat. Les paroles décrivent l'accueil animé et joyeux d'Eid al-Fitr. Bon, chers auditeurs, voici Gita Gutawa avec la chanson dans le titre est Eid al-Fitr. Bonne écoute.
Sampai Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.